Biotine, l'émission de vulgarisation scientifique de Graphite.
Quel plaisir de vous retrouver sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Effectivement, c'est l'émission d'actualité scientifique sur Graphite. L'émission s'appelle Biotine, je m'appelle Jean-Noël, je suis très heureux de vous retrouver. Toutes les semaines, nous feuilletons ensemble la revue de presse de l'actualité scientifique pour nous informer de ce qui se passe dans les laboratoires du monde entier et dans les différents sujets technologiques, scientifiques, médicales, spatiales aussi. Parce que je l'ai dit très très souvent à l'antenne de Graphite, la décennie 2020 est une décennie formidable au niveau du spatial et donc on suivra un petit peu l'aventure d'Artemis 2 à partir de février. On fera une émission spéciale, je l'espère, parce que là c'est, ça va être un domaine assez génial. On va retourner, revoir la Lune, quoi, parce qu'elle est à la fois loin et proche et donc on s'est dit... Oh, comment elle va la Lune ? Et on va y retourner. Ça sera en février, on suivra ça bien sûr sur l'antenne de Graphite. Aujourd'hui, 1er novembre, pour cette émission du samedi, je rappelle et je salue ceux qui nous écoutent pour la rediffusion le mardi matin, parce qu'effectivement là je vous fais l'éphéméride du samedi 1er novembre, je ne vous fais pas l'éphéméride du mardi 4 novembre, je suis désolé, ça tombera une autre fois bien sûr. Pour ce 1er novembre, c'est l'inauguration du canal de la mer du Nord par Guillaume III des Pays-Bas. C'était en 1876, le canal de la mer du Nord, 1876, il y a 150 ans presque. Naissance le 1er novembre 1880 d'Alfred Wegener, ou Wegener, hein, si c'est un Allemand. Wegener, je pense que ça doit se dire comme ça, astronome, météorologue allemand de formation. Il est principalement connu pour sa théorie de la dérive des continents, proposée en 1912, publiée en 1915. D'abord astronome, il s'est intéressé à plusieurs sujets connexes, comme la météorologie, la géophysique, la géologie. C'était aussi un peu l'époque où on se passionnait aussi sur différentes thématiques scientifiques. Il a fait de nombreuses expéditions au Groenland pour étudier la météorologie des régions polaires. Sa théorie reposait sur de nombreux arguments appartenant à des champs disciplinaires variés. C'est ça qui était aussi assez intéressant, mais n'a été admise par la majorité de la communauté scientifique que 40 ans après sa mort, c'est encore un précurseur, lorsque les mécanismes de la tectonique des plaques furent mis en évidence. Pardon, je vais y arriver. Donc Alfred, alors je ne sais pas si on dit Wegener ou Wegener, mais donc il est né à 1er novembre 1980 à Berlin. Décès le 1er novembre 1993 de Severo Ochoa de Albornoz, biochimiste espagnol. On ne parle pas souvent dans cette émission des scientifiques espagnols, et bien là c'est l'occasion de célébrer la mémoire de Ochoa de Albornoz. Il a passé son enfance et son adolescence à Malaga. Il est mort à Madrid le 1er novembre 1993. C'est un lauréat du prix Nobel de physiologie de médecine qu'il partage avec son élève Arthur Kornberg pour leur recherche sur la biosynthèse de l'ARN. L'ARN, on en avait pas mal parlé, notamment à l'occasion des vaccins ARN. L'ARN, bien sûr, c'est un domaine génétique très important. Et donc, pour ses travaux, il a donc été lauréat du prix Nobel de, alors ce qu'on appelle de physiologie, ou plus communément le prix Nobel de médecine. Severo Ochoa de Albornoz. Albornoz, c'est vrai. Voilà, un peu d'espagnol. Après Vibrasoes, c'est le côté portugais. Et bien là, on a aussi un peu un côté espagnol. Alors, on va... dans la revue de presse d'actualité scientifique, il y a pas mal de choses dans différents domaines. Donc, je n'ai pas nécessairement un fil conducteur à vous proposer aujourd'hui, ce qui est souvent le cas d'ailleurs. Il y a des moments où voilà, il y a des sujets que je n'ai pas eu le temps d'évoquer lors des éditions précédentes. Mais donc, je le fais ici. Alors, par exemple, j'ai trouvé cet article vraiment fascinant. Ça concerne l'une des figures emblématiques de la musique expérimentale qui s'appelle Alvin Lucier. Il est né en 1931 dans le New Hampshire, à Nashua précisément. Il a consacré sa vie à étudier la musique comme un phénomène physique et brouiller un petit peu la ligne entre l'art et la science. Il est décédé en 2021. Eh bien, si je vous disais que ce compositeur, il continue 4 ans après sa mort à créer encore de la musique. Là, vous dites, qu'est-ce qu'il raconte, Jean-Noël ? Il est temps qu'il... qu'il se repose un peu, il raconte n'importe quoi. Eh bien non, il continue de jouer de la musique grâce à son projet le plus plus surprenant, qu'on appelle la revivification. Cette œuvre permet à son esprit musical de se prolonger au-delà de la mort. Qu'est-ce qui s'est passé précisément ? Ben, avant de mourir, Lucier il a accepté une proposition hors du commun, c'est de transformer ses propres cellules en instruments de musique. Et c'est en 2018 que les artistes Nathan Thompson, Guy Benary, Matt Gingold et le neuroscientifique Stuart Hoggett lui ont présenté ce projet. On est 3 ans avant sa mort. Ils ont en fait prélevé un petit échantillon de sang d'Alvin Lucier avant sa mort. Et à partir de ce sang, eh bien, les scientifiques ils ont isolé des cellules souches. Les cellules souches, ce sont des cellules qui peuvent se transformer en n'importe quel autre type de cellule. On a, nous, des cellules souches essentiellement au niveau de la moelle épinière, c'est-à-dire des cellules qui sont, pas, qui sont polyvalentes et qui ne sont pas encore différenciées. Donc à partir de ces cellules souches, ils ont fait tout un protocole expérimental assez complexe et assez ciblé pour essayer de créer, à partir de ces cellules d'Alvin Lucier, un organoïde cérébral, c'est-à-dire on sort un peu comme un mini cerveau en laboratoire, si on veut schématiser et être un petit peu, comment dire, simpliste. Mais pour mieux comprendre l'idée, c'est qu'à partir des cellules du sang d'Alvin Lucier, on a pu faire un genre de mini cerveau. Entre guillemets. C'est quoi l'intérêt ? C'est que ce cerveau, cet organoïde, est aujourd'hui c'est un réseau de neurones qui sont toujours actifs. Qui dit neurones dit qu'ils sont capables d'émettre des signaux électriques. Et en fait, ces signaux électriques de ce cerveau sont captés par un dispositif électronique qui vont les convertir en mouvements mécaniques. Chaque impulsion va faire frapper un maillet sur une plaque de cuivre. En d'autres termes, l'activité électrique de ces neurones allait transformer en notes de musique, ce qui permet donc à Alvin Lucier, même après sa mort, de jouer de la musique encore. Et donc pour ces créateurs, ce projet revivification va au-delà de l'expérience sonore parce qu'elle questionne un peu notre rapport à la vie, à la mort et à la création artistique. C'est une démarche qui bouleverse notre perception de la biotechnologie et de la sensibilité, tout en explorant le lien entre l'humain et la technologie, c'est ce qu'ils expliquent. Alors, l'installation, elle est actuellement visible à l'Art Gallery of Western Australia, donc en Australie. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'aller en Australie assez prochainement, eh bien, vous pouvez quand même regarder sur Internet et voir un petit peu ce... Comment dire, c'est assez fascinant d'avoir cette composition musicale créée par quelqu'un après sa mort. C'est quand même, voilà, ça pose question, quelque part, bien sûr, mais en tout cas, ça a été fait avec son accord. Il est donc décédé en 2021 et il continue à créer de la musique 4 ans après sa mort. C'est, voilà. Alors, j'ai pas eu le réflexe de récupérer. C'est vrai qu'on aurait pu écouter. Écoutez, je vais voir si j'arrive à trouver, pendant qu'on écoutera un titre dans cette émission, voir si on peut récupérer l'œuvre d'Alvin Lucier pour voir ce que ça donne. Je vous promets rien, j'essaierai tout à l'heure. Autre question, toujours problématique au niveau du dérèglement climatique auquel nous assistons. On a très régulièrement dans cette émission, des articles qui abordent ce sujet et qui illustrent de plus en plus ce cas qui apporte bien évidemment des conséquences assez inquiétantes. On va parler du Gange, qui est l'un des plus grands fleuves du monde. Il alimente en eau 1/4 de la population de l'Inde. Il alimente également toute la population du Népal et une partie de celle du Bangladesh. Plus de 600 millions de personnes en tout sont alimentées en eau grâce au Gange. C'est quand même assez énorme. La production agricole et les industries et aussi la faune sauvage sont concernées par le Gange. Et donc son eau, cependant, est parmi les plus polluées de la planète. On y trouve du mercure, de l'arsenic et des déchets plastiques. On y trouve toutes sortes de produits dont la présence inquiète les scientifiques. Et voici que des chercheurs de l'Institut indien de technologie, ils se sont associés avec des Américains de l'Université de l'Arizona, viennent en rajouter aux craintes pour les populations locales parce qu'ils montrent que le fleuve connaît sa pire période de sécheresse depuis 1300 ans. Ça n'est jamais arrivé depuis 1300 ans, cette sécheresse. Dans un article scientifique qui relate un petit peu leur analyse, qui article paru dans The Proceedings of the National Academy of Sciences, les chercheurs détaillent comment ils ont reconstitué le débit du fleuve en analysant des cernes au niveau des arbres. Comment ils ont ensuite combiné le tout avec des relevés modernes et puis des données de sécheresse et de famine historique pour aboutir à une chronologie assez fidèle. Et leurs résultats révèlent que l'assèchement du Gange ces 30 dernières années est 76% plus grave que la précédente sécheresse la plus grave jamais enregistrée. Elle était survenue au XVIe siècle. Selon les chercheurs, la principale raison de cette grave sécheresse, c'est l'activité humaine. Plus précisément, les conséquences qu'elle a sur la mousson d'été dans la région. Le réchauffement de l'océan Indien ainsi que la pollution atmosphérique, en effet, sont les principaux facteurs identifiés par les scientifiques pour expliquer l'affaiblissement de ce phénomène météorologique. Et puis, en plus, vous allez ajouter des extractions incessantes, on n'arrête pas de piocher de l'eau, la construction de barrages. Et donc, au final, on comprend pourquoi le Gange connaît des périodes de sécheresse de plus en plus fréquentes, de plus en plus longues et de plus en plus intenses. Les chercheurs notent par ailleurs que la plupart des modèles climatiques ne montrent pas la sécheresse observé. Ils appellent donc la communauté à se remettre au travail pour arriver à des résultats plus fidèles à la réalité. En attendant, ils préconisent la mise en œuvre de nouvelles stratégies adaptatives de gestion de l'eau afin d'atténuer les risques de pénurie. Donc voilà, ce que les scientifiques viennent de découvrir sur le Gange n'était jamais arrivé en 1300 ans. Nous sommes en face d'un cas de sécheresse très très intense du Gange. Voilà ce que l'on pouvait évoquer en ce début d'émission. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite. C'est de la science et c'est de la musique.
Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. We lose our voice more each year. Maybe we won't bring soon. Is there cancer in the throat?
No stress.
Maybe it's supposed to kill the success. Because success is killing. Murder is media. False laugh, forged autograph.
First my body. Now my corpse.
Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. Life is pain, murder is fake. And if you're famous,
you make it quit.
If you did it, there's nowhere to run away.
Damn you, I hope you pay.
And finish the day to day. The games we play. Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. I'ma stay at home and talk on the telephone. There's nothing in this world I want from you.
Don't fool yourself,
I won't cry. Too scared to live. Too quick to die. Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes. Those men will break your bones. Don't know how to build stable homes.
Broken Arms, c'était Tricky sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Biotine sur Graphite.
Bon, bah, j'ai essayé de chercher, je tombe bien sur le site internet du projet Revivification pour essayer d'écouter ce qu'est en train de jouer Alvin Lucier 4 ans après sa mort, mais le site ne permet pas, en tout cas du peu de temps que j'ai pu regarder, ne permet pas d'avoir une proposition de ces compositions sonores. Bah, écoutez, on verra. Des fois, si vous trouvez, cherchez Alvin Lucier. Alors, il y a pas mal d'articles qui évoquent le projet, mais on voudrait écouter. Bon, on trouvera peut-être. Hein. On essaiera bien évidemment. Alors, on va partir au Japon. Le Japon qui... alors, c'est vrai qu'on ne parle pas souvent du Japon dans cette émission. J'ai l'impression qu'on parle toujours des mêmes pays, en fait. Et on ne parle pas souvent du Japon. Et on va parler d'Internet, hein, les connexions Internet ultra rapides. Ne relève plus de la science-fiction. Il y a une équipe scientifique japonaise qui vient de pulvériser tous les records existants en matière de vitesse de transmission des données. Leur prouesse technologique a été présentée il y a quelques semaines et elle atteste une connexion 4 millions de fois plus rapide que la moyenne américaine. 4 millions de fois plus rapide, c'est assez faramineux. Cette innovation majeure repose sur une fibre optique révolutionnaire capable de transmettre des données sur plus de 1800 km sans perte significative. C'est ça qui est vraiment l'exploit technique du sujet. Le rapport établi par l'Institut national japonais des technologies de l'information et des communications impressionne par son ampleur. Les chercheurs ont réussi à transmettre plus de 125 000 gigaoctets de données par seconde sur une distance de 1800 km. 125 000 gigaoctets de données par seconde, c'est quand même formidable. Alors, pour essayer de mieux comprendre ce dont il s'agit, Futura Science donne un petit peu quelques éléments de comparaison pour qu'on comprenne un petit peu la réalité de cette vitesse et de cette prouesse également. L'idée, c'est qu'on pourrait télécharger l'intégralité des archives Internet en moins de 4 minutes. Donc, on devine le nombre d'informations et de données qu'il y a sur Internet. Si on veut télécharger l'intégralité des archives Internet, ça se fait en moins de 4 minutes. On peut télécharger environ 25 000 films en 4K, tout ça en une seconde. Alors qu'on sait que dans notre réalité quotidienne, ce n'est pas le cas. On peut télécharger toute la bibliothèque du Congrès américain en quelques secondes. Et on peut télécharger un jeu vidéo moderne de 100 gigas en moins d'une milliseconde. On n'a même pas le temps d'appuyer sur le bouton, ça y est, c'est téléchargé, c'est assez formidable. Cette avancée, elle dépasse largement le précédent record mondial qui était établi l'année dernière. La prouesse équivaut à franchir la distance New York-Miami en un temps record pour les données, ce qui ouvre bien sûr des perspectives inédites pour les communications longue distance. La clé de cette réussite, elle réside dans une nouvelle approche de la fibre optique, parce que contrairement aux câbles un peu standards, eh bien, cette innovation, elle regroupe 19 fibres distinctes dans un diamètre identique au câble que l'on a actuellement. Et l'équipe japonaise, elle a résolu deux défis majeurs. Elle a résolu l'idée de réduire les pertes de données sur une longue distance. Et elle a résolu aussi le projet d'amplifier le signal. Et la conception unique du câble permet à ces 19 fibres d'interagir uniformément avec la lumière, ce qui va limiter les fluctuations lumineuses qui sont responsables des pertes d'informations. Cette innovation, elle est d'autant plus remarquable qu'elle s'intègre dans les infrastructures existantes. C'est ça aussi qui est assez intéressant, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de refaire toute l'infrastructure. Les mêmes scientifiques avaient déjà atteint des vitesses similaires il y a 2 ans, en mars 2023, mais sur une distance qui était 3 fois moindre. Là, on arrive quand même à 1800 km de distance. L'extension de la portée représente donc une avancée significative. Cette percée technologique, elle survient à point nommé face à l'explosion mondiale du trafic de données. Selon les projections, la demande en bande passante continuera de croître exponentiellement dans les années à venir, parce que ça va être poussé bien sûr par le développement de l'intelligence artificielle, le cloud computing et la réalité virtuelle. Donc pour leur démonstration, les chercheurs ont fait circuler les données 21 fois à travers leur système de transmission avant d'atteindre le récepteur final. Cette méthodologie, ça va pouvoir valider aussi la robustesse du système pour des applications réelles. L'équipe japonaise travaille désormais à transformer cette prouesse de laboratoire en solution concrète pour le secteur des télécommunications. Cette technologie, en fait, elle pourrait réformer, bien sûr, l'Internet longue distance, particulièrement pour les connexions intercontinentales et les infrastructures qui seraient plutôt critiques. Alors, si cette technologie venait à se démocratiser, eh bien, elle va transformer radicalement notre façon d'interagir avec le numérique. Les applications en temps réel, sans latence, deviendraient donc la norme, ce qui ouvre la voie à des innovations qui sont encore inimaginables aujourd'hui. Les secteurs de la santé, de la finance, de la recherche scientifique pourraient particulièrement bénéficier de ces vitesses stratosphériques. L'échange instantané de données massives pourrait faciliter la collaboration internationale et pourrait accélérer les découvertes dans de nombreux domaines. Donc cette avancée japonaise confirme que la course à la vitesse Internet est loin d'être terminée et que les limites théoriques sont constamment repoussées par l'innovation technologique, bien sûr. Et aussi notre rapport au temps, notre rapport à la distance dans le monde numérique qui continue de se transformer à mesure que les scientifiques repoussent les frontières du possible. C'est ça qui est assez fascinant, bien évidemment. Bravo aux Japonais, donc. Avec cette vitesse Internet 4 millions de fois plus rapide que la nôtre. Là, on est sur un article où il y a plein de chiffres, évidemment, mais enfin, c'est quand même assez fascinant, bien sûr. Autre sujet, aucun lien, et là, on est plutôt médecine, et on va se poser la question de savoir où se loge la graisse dans notre corps. Est-ce que c'est plutôt dans les cuisses? Est-ce que c'est majoritairement au niveau du ventre? Est-ce que c'est dans la zone supérieure du thorax? Au niveau des bras? Eh bien, ces questions qui paraissent un peu triviales, elles pourraient être très importantes dans le devenir de notre cerveau. C'est en tout cas ce que suggère une nouvelle étude qui a été publiée dans la revue Nature Mental Health. Les auteurs, qui sont des chercheurs de l'université de Hong Kong, ont mis en évidence que la répartition régionale des graisses exerce des effets distincts sur la structure et la connectivité du cerveau, ainsi que sur les processus cognitifs. Alors, l'obésité, elle est connue pour entraîner des modifications dans la structure et le fonctionnement du cerveau. Les études montrent par exemple que l'excès de poids s'accompagne d'une réduction de la substance grise, de la matière grise que l'on retrouve par exemple dans la partie périphérique de l'encéphale où se trouve notamment le corps des neurones qui traitent les informations. Et puis, l'excès de poids s'accompagne aussi d'une perturbation de la matière blanche, la substance blanche qui correspond à la zone plus interne de l'encéphale et qui est constituée des axones des neurones, c'est-à-dire du prolongement de ces neurones. Et enfin, l'excès de poids s'accompagne aussi d'une altération de ce qu'on appelle la connectivité. En fait, ça correspond aux connexions physiques entre les différentes régions du cerveau et dont dépendent les capacités cognitives. Alors jusqu'à présent, on utilisait ce qu'on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle, pour mesurer la teneur en graisse corporelle. Le problème, cette mesure, elle est très générale. Elle ne permet pas d'apprécier comment ces graisses se répartissent dans l'organisme. On sait pourtant que, selon la zone où elle se situe, eh bien, ces graisses n'ont pas les mêmes effets physiologiques, notamment métaboliques et inflammatoires. Il semble par exemple que la graisse viscérale située autour du cœur, des intestins, du foie, des reins, et la graisse qui se dépose sur les jambes ne contribue pas de la même façon au risque de maladie. Est-ce que la répartition des graisses pourrait mieux expliquer les effets sur le cerveau que la graisse globale? Eh bien, c'est pour répondre à cette question que les auteurs ont tenté d'évaluer s'il existe une association entre la localisation des graisses d'un côté et le fonctionnement du cerveau de l'autre. Et donc, ils ont travaillé sur les données de plus de 23 000 adultes, tous volontaires, et ils ont été suivis sur de nombreuses années. Ce sont donc des Britanniques qui ont participé à cette étude, tous avec bénéficié d'une évaluation du pourcentage de graisse présente dans leurs bras, leurs jambes et leurs troncs. Et les scientifiques ont également utilisé les données de près de 19 000 adultes, dont on avait mesuré également la graisse au niveau au niveau du ventre et au niveau des... au niveau du ventre, pardon. Et on avait au départ, pour qu'il y ait quand même, qu'on ait le maximum d'éléments avant de démarrer cette analyse, aucun volontaire n'avait de pathologie psychiatrique ou neurologique au départ. Leur santé neuronale a été évaluée à l'aide d'imageries, notamment des IRM et des tests également qui ont été réalisés. Et donc, chaque localisation, c'est-à-dire soit au niveau du tronc, au niveau des viscères, au niveau des bras, au niveau des jambes, eh bien on les associe à des schémas distincts d'atrophie au niveau du cerveau et d'échange de communication entre les régions du cerveau. On a analysé un petit peu tout ça, on a essayé de faire un petit peu des liens entre la localisation des graisses et ce qu'ils pouvait se passer au niveau du cerveau. Et on s'est rendu compte, par exemple, qu'une quantité supérieure à la moyenne de graisse dans les bras et le torse était, par exemple, associée à un amincissement de la zone impliquée dans le mouvement et associée aussi à une diminution du volume de l'hippocampe. C'est une zone qui est affectée en cas de maladie d'Alzheimer, par exemple. Et une présence de graisse dans les jambes était associée à une diminution de la connectivité dans le cerveau, notamment la zone qui régule les émotions et le traitement des récompenses. Ceci pourrait s'expliquer par le fait que la graisse du bas du corps sécrète ce qu'on appelle de la leptine. C'est une hormone qui régule la faim et que des niveaux élevés de leptine soient associés à une connectivité plutôt réduite au niveau du cerveau. La graisse des bras est, quant à elle, associée à la fois des changements cérébraux et également au niveau de la santé cérébrale d'une façon générale. Bref, on a pu révéler certains liens. Évidemment, ça reste des liens, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des liens de causalité. On n'est pas là pour dire « t'as de la graisse au niveau des bras, donc ça va te causer ça ». Mais bon, ça donne des indices, et c'est ça qui est assez intéressant. Une affaire qui est donc à suivre, hein, parce que cette étude n'a pas mis en évidence qu'une association entre graisse et fonctionnement du cerveau était totalement évidente, mais il est même possible que des changements dans le cerveau entraînent des changements dans la répartition des graisses aussi. Mais voilà, ça pose question, c'est assez intéressant et en tout cas, ça pourrait avoir, au niveau de cette localisation de la graisse, une affection au niveau des capacités mentales selon donc cette étude. C'est assez intéressant parce que c'est encore un sujet qu'on n'avait pas nécessairement évoqué dans cette émission. Allez, on écoute encore un petit titre sur l'antenne de Graphite et puis on va continuer à feuilleter ensemble la revue de presse de l'actualité scientifique. Tout de suite.
Just be
Big Mouth, c'était The Smith sur l'antenne, bien sûr, de Graphite.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Alors, on va continuer à lire un petit peu l'actualité scientifique ensemble avec ces articles que l'on peut trouver dans différents sites internet, hein, Futura Science, qui est un site plutôt bien fait, et puis dans des revues de vulgarisation scientifique, Sciences et Avenir, Sciences et Vie. Vraiment, si vous êtes intéressé ou non d'ailleurs par les sujets scientifiques, je vous incite quand même à lire ces différents supports parce qu'ils sont quand même plutôt bien faits, ils sont vulgarisés, ils s'adaptent au public, et donc ça nous permet d'avoir un petit peu une information de ce qui se passe actuellement au niveau scientifique, de savoir un petit peu quels sont les domaines dans lesquels on travaille. Et puis quelque part, on pense que ça aura un impact plus ou moins proche, enfin sur notre avenir plus ou moins proche, bien évidemment. Et puis il y a des choses qui sont assez intéressantes, et puis il y a des choses aussi qui sont, comment dire, qui interpellent. Alors on va... Par exemple, parler, alors c'est plutôt dramatique, mais il y a quand même une idée assez intéressante derrière. On va parler des crashs d'avions, et notamment celui qui s'est passé en juin dernier en Inde, le Boeing 787 de la compagnie Air India, qui s'écrase dès le décollage sur un quartier résidentiel. 242 personnes à bord, et il y a un seul passager qui survit miraculeusement, on s'en souvient, on a vu ça quand même dans les différents médias. Alors s'il reste extrêmement rare, la plupart des accidents graves d'avions de ligne engendre en général la perte de l'ensemble des personnes embarquées. Alors, comment éviter une telle fatalité lors d'un crash? Eh bien, l'une des réponses les plus originales vient de l'Inde, justement. Il y a deux ingénieurs en aéronautique de l'Institut de technologie des sciences de Birla qui ont planché sur ce qu'ils ont baptisé le projet Rebirth, donc Renaissance. Le concept apparaît aussi simple qu'imaginer construire un avion avec les mêmes matériaux que ceux de ces boîtes noires pour le protéger. Alors, l'idée, ça serait d'équiper l'avion de ligne d'un gigantesque airbag externe contrôlé par intelligence artificielle qui pourrait absorber l'impact et sauver la vie des occupants de l'avion. Avec un avion bardé de capteurs qui pourraient surveiller en continu les conditions de vol, l'altitude, la vitesse, l'état des moteurs, la réaction des pilotes et ainsi de suite, eh bien l'intelligence artificielle pourrait évaluer en temps réel le risque d'accident dès que l'appareil se trouverait en dessous de 900 mètres d'altitude. Alors, si l'intelligence artificielle détecte une situation de crash inévitable, eh bien il y aurait des airbags géants qui se déploieraient pour former un espèce de cocon protecteur qui serait dimensionné pour absorber l'énergie de l'impact et donc réduire le choc. Et donc, quelque part, de réduire le nombre de morts. Alors, cela ressemble à une blague, mais les travaux des chercheurs ont pourtant été nominés pour le prix James Dyson 2025. Selon les différentes simulations informatiques qui ont été menées donc, par ces deux scientifiques, avec cet airbag géant, eh bien, la force de l'impact serait diminuée de 60%. En pratique, les pilotes disposeraient de quelques secondes pour annuler le déclenchement de l'airbag, s'il s'avérait inopportun, bien évidemment. L'ouverture de ces airbags, parce qu'il y en aurait plusieurs, se ferait au niveau du nez, du ventre et de la queue de l'avion. Il suffirait de 2 secondes pour qu'il se déploie. Et pour résister à l'impact, il serait constitué de couches de Kevlar, de polyuréthane thermoplastique ou encore de zylon. Ce sont en fait des matériaux qui sont choisis pour leur capacité à absorber l'énergie cinétique, donc à absorber les chocs. En clair, ces différentes couches seraient également renforcées par des liquides spéciaux. Enfin, si les moteurs rester opérationnel, eh bien le système pourrait activer les inverseurs de poussée afin que l'appareil perde un peu de sa vitesse. Et selon leurs calculs, eh bien l'inversion de poussée pourrait réduire la vitesse de l'impact de 8 à 20%. Après le crash, eh bien le système déclencherait également une balise infrarouge qui envoie les coordonnées GPS et des flashs lumineux aussi pour pouvoir guider les secours. Mais cette idée, pour le moins originale, pourrait-elle sauver des vies? Alors cela semble peu probable. D'abord, il faut imaginer un petit peu les dimensions colossales des airbags nécessaires pour protéger un avion de plus de 270 tonnes. Ce système de protection viendrait alourdir considérablement l'avion. Or, plus un avion est lourd, plus sa consommation de carburant et sa distance de freinage augmentent, et donc la maniabilité et la sécurité d'un vol normal seraient entravées par son système de protection. Ce n'est pas nécessairement ce que l'on attend. Un autre point critique repose aussi sur l'intelligence artificielle. Parce que si elle décide de déclencher le système trop tôt ou trop tard, les airbags viendraient perturber l'aérodynamique de l'avion et provoquer une perte de contrôle, ou encore ne pas être pleinement gonflé au moment de l'impact. Et puis, les airbags sont efficaces pour des impacts verticaux ou alors légèrement inclinés. Or, la plupart des catastrophes aériennes impliquent des trajectoires complexes, mais on n'est pas sur une chute totalement verticale. Donc, ce n'est pas aussi simple que ça. La trajectoire de l'avion ne va pas nécessairement être celle que l'on souhaiterait pour que l'airbag soit optimal. Autre souci, en cas de situation critique, les pilotes sont formés et entraînés à tenter un atterrissage forcé ou un amerrissage sur la mer, donc contrôlé, en exploitant la structure de l'avion pour absorber l'énergie. Et donc, ajouter ces airbags ne laisserait aucun autre choix qu'attendre l'impact. Plus important encore, même si le système permettait d'absorber une partie de l'énergie, cela resterait insuffisant pour sauver les vies à bord. Au mieux, les corps ne seraient pas disloqués. Alors, en prenant l'exemple d'un avion de 80 tonnes à 300 km/h, son énergie cinétique est d'environ 270 mégajoules. Même en appliquant 20% d'inversion de poussée, il resterait quand même encore 173 mégajoules à l'impact, ce qui est quand même assez important. Et donc absorber une telle énergie sans transmettre de force mortelle aux passagers et à la structure de l'avion, ça relève de l'impossible. Un être humain, même bien protégé, il peut encaisser environ 35 kilojoules d'énergie. Là, on en est à 173 mégajoules. Alors, c'est vraiment... une limite qu'on a largement dépassée. Il semble donc difficile d'imaginer que les airbags en question puissent effectivement absorber la différence. Et donc, pour toutes ces raisons, ce projet Rebirth fera sans doute partie des nombreuses propositions ambitieuses en matière de sécurité aérienne qui ne verront jamais le jour. Il y a eu le cas des parachutes de cellules pour avions de ligne. Cette technologie, elle existe en aviation légère, mais elle reste impossible à appliquer sur des avions aussi lourds et aussi imposants. Donc on n'est pas prêt d'avoir des airbags pour les avions, nous dit-on, hein, c'est ça. Mais si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous avez certains sites qui vous montrent un petit peu, qui vous donnent une illustration. C'est assez étonnant, c'est vrai, c'est assez étonnant, mais bon, ça existe. Oui, comme tout existe dans cette émission, en fait.
Biotine, Jean-Noël Moreau.
Autre sujet, on va parler des cassettes. Ah, les cassettes, oui, c'est assez... ça fait du bruit parce que je me rends compte que j'ai mal installé mon micro parce qu'il tombait tout seul. Excusez-moi, pardon. Donc, pour le grand public, la cassette a disparu depuis des décennies parce qu'elle a été remplacée par le CD. Et puis après, il y a eu ensuite tous les supports dématérialisés. Ce média, ce support est toujours bel et bien présent dans l'un des environnements les plus high-tech qui soit, ce sont les centres de données. La cassette est un support fiable et peu coûteux pour l'archivage de l'information. Il y a eu un article qui a été publié dans Science Advances qui montre que des chercheurs de l'Université de Sciences et de Technologie de Southern University, donc en Chine, ces chercheurs proposent de moderniser les cassettes en remplaçant la bande magnétique par de l'ADN. Plutôt qu'un stockage binaire, ils vont exploiter les bases de l'ADN. L'ADN, il y a quatre bases qui existent, A, T, C et G. Donc avec ces quatre bases, on peut enregistrer les informations du code génétique et cette fois en format numérique. Et les molécules d'ADN sont imprimées sur une bande plastique et elles sont protégées par une couche spéciale qui leur permet d'avoir une armure un petit peu cristalline. L'idée, c'est de préserver l'ADN et ça pourrait permettre de stocker des données pendant des siècles. Les chercheurs ont imprimé des codes-barres sur la bande afin de créer des partitions physiques. Ils ont ensuite testé cette technologie avec des images incomplètes et le processus d'écriture et de lecture nécessite au total une cinquantaine de minutes. La technologie, elle n'est pas rapide, mais elle est destinée à l'archivage et elle offre surtout une capacité impressionnante parce qu'une cassette avec une bande de 100 mètres, elle pourrait stocker l'équivalent de 36 000 disques durs d'un téraoctet, c'est quand même pas mal, ou l'équivalent de 3 milliards de chansons. chansons alors qu'une cassette audio n'en contient qu'une douzaine à peu près. Donc avec cette technologie, alors que c'est quand même sur un support cassette, on est vraiment sur un stockage de volume, d'une volumétrie de données assez importante. Alors à ce stade, ce n'est qu'un premier prototype qui utilise des technologies qui sont un petit peu chères et un peu encombrantes. Donc on n'est pas prêt de le voir sous forme de lecteur portable dans un avenir proche. Toutefois, à terme, une seule cassette pourrait stocker toutes les données d'une vie. C'est ça qui est quand même assez intéressant. Mais pour les plus grands centres de données, cela restera insuffisant. Il y a certains data centers qui disposent désormais d'une capacité qui se compte en hexaoctets, c'est-à-dire 1000 fois plus grand qu'un pétaoctet, c'est-à-dire que c'est déjà très 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 grand comme données d'information. Même avec cette technologie à base d'ADN, il leur faudrait plusieurs centaines ou milliers de cassettes pour une sauvegarde complète. Bref, ce que l'on apprend de cet article, c'est que 1. Le stockage sur cassette existe encore. 2. On n'est pas sur un stockage binaire que l'on a connu, nous, avec nos cassettes audio que l'on avait dans nos Walkman. Là, on est sur un stockage qui utilise le code de l'ADN avec ses 4 bases A, T, C, G. Et donc, on est quand même dans la possibilité de pouvoir stocker une capacité de données assez intéressante. Mais comme on est dans une forme un peu de comment dire, une augmentation exponentielle des données qui sont produites, que quelque part ce genre de stockage va pas nécessairement répondre à la volumétrie de plus en plus importante de ces données. Donc bon, c'est intéressant parce qu'il y a un côté un peu vintage, de se dire, bah tiens, les cassettes qu'on a connues sont encore utiles. Dans la pratique, ça, il va falloir quand même essayer de trouver des solutions de stockage beaucoup plus performantes, bien évidemment. Bien évidemment. Allez, on écoute. Non, peut-être encore un dernier article, peut-être avant d'écouter un autre titre. J'avais trouvé cet article assez intéressant et je voulais l'évoquer avec vous. C'est se dire pourquoi lire à haute voix, à votre enfant une histoire, par exemple, est l'un des meilleurs gestes éducatifs qui soit. C'est un article du Futura qui est assez intéressant, qui montre que le monde lecture à la maison, en crèche ou à l'école est un moment où les jeunes enfants découvrent la magie des livres. Donc lire des histoires aux enfants, c'est un plaisir en soi, mais cela pose aussi les bases de leur langage et de leur apprentissage de la lecture, tout en apportant des bénéfices sociaux et émotionnels. Alors depuis des décennies, il y a des recherches qui montrent une différence nette dans les compétences linguistiques entre les enfants qui ont des moments de lecture à la maison et ceux qui n'en ont pas. Les parents et les enseignants peuvent renforcer ces bienfaits grâce à la lecture interactive qui consiste à engager les enfants dans des conversations autour des histoires. Cela passe par des questions qui incitent l'enfant à parler du livre et ces échanges approfondissent sa compréhension, son vocabulaire. En fait, ça va l'aider aussi à mieux maîtriser la langue. On peut par exemple lui demander ce dont il se souvient de l'intrigue ou on peut lui poser des questions sur les choix qui sont faits par les personnages. Il y a de nombreuses études qui soulignent l'importance de ces échanges. Ces échanges favorisent bien sûr le plaisir de lire, la motivation, le lien parent-enfant et la confiance des parents également. La lecture interactive, elle a un impact direct sur le vocabulaire et les compétences de lecture de l'enfant. Il y a une étude qui a porté sur 36 enfants qui présentaient des retards de vocabulaire. On a comparé la lecture classique à la lecture interactive. Et les deux groupes ont progressé, les enfants qui ont participé à la lecture interactive ont montré des gains de vocabulaire nettement supérieurs. Le langage et la communication sont des domaines prioritaires dans le programme d'éducation des jeunes enfants en Angleterre. Et la lecture interactive est un outil précieux pour pouvoir développer la capacité des enfants à s'exprimer, à écouter de façon attentive et à communiquer efficacement. Cependant, les contraintes du programme scolaire rendent parfois difficile de consacrer du temps à la lecture d'histoire. Et donc les directives privilégient souvent l'apprentissage du décodage, c'est-à-dire comprendre comment les lettres et les groupes de lettres correspondent au son, et ça se fait au détriment du développement de l'expression orale. Et en 2024, la Commission sur l'expression orale, qui est un organisme indépendant, a publié un rapport qui soulignait l'importance justement de cette expression orale. Savoir s'exprimer prépare les enfants aux exigences de la vie future, que ce soit pour faire une présentation, défendre une idée ou participer avec assurance à des séminaires et des réunions. Le rapport note toutefois que l'accès à un enseignement de qualité dans ce domaine n'est pas universel. L'expression orale dans l'éducation était un élément clé du programme électoral du gouvernement travailliste actuel, hein, nous sommes toujours en Angleterre, mais son absence dans le rapport intermédiaire d'une révision en cours du programme scolaire et de l'évaluation, ça inquiète un petit peu là-bas. Donc, il y a un projet de recherche qui Talk with Tales for Children, qui vise à améliorer les compétences des enseignants de la petite enfance dans l'utilisation de la lecture interactive avec les enfants de 3 à 4 ans. Et le programme, il va utiliser des contes classiques, hein, Boucle d'or ou Trois ours, par exemple. Et il y a des questions simples qui vont être qu'est-ce que tu vois sur l'image, qu'est-ce qui s'est passé ensuite. Et les praticiens sont encouragés à poser des questions qui vont stimuler la réflexion des enfants. Par exemple, est-ce que c'est bien ou mal de manger le porridge de quelqu'un d'autre ? Est-ce que Boucle d'or, est-ce qu'elle était courageuse ? Donc là, on est sur une lecture interactive qui va, comment dire, susciter chez ces enfants une réflexion qu'ils n'auraient pas s'ils sont plutôt dans une lecture classique et donc un peu plus passif, on va dire, face à cette lecture. Les résultats, les premiers résultats montrent que cette formation de qualité améliore les interactions entre les enseignants et les enfants lors de la lecture partagée, tout en renforçant l'attention, la réflexion, le plaisir des enfants face aux histoires, bien sûr, et les bénéfices linguistiques, d'ordre social, d'ordre émotionnel de la lecture, d'histoire, en font une partie essentielle du programme de la petite enfance et non un simple luxe ou un ajout optionnel. Donc c'est assez intéressant avec cet article de voir que lire à haute voix à votre enfant est l'un des meilleurs gestes éducatifs qui soit, et donc de rentrer dans cette méthode de la lecture interactive. Eh bien écoutez, essayez cette lecture interactive avec vos enfants et puis vous nous direz un petit peu après si l'efficacité de cela. Allez, on écoute encore un autre titre sur l'antenne de Graphite. Ça a été proposé par Brian, le directeur de la programmation. Je ne sais même plus son titre à Brian au sein de Graphite. Je crois que c'est directeur de la programmation. Directeur tout court et puis voilà comme ça c'est dit. Il m'a dit tiens, viens danser de Joko Selva, c'est pas mal. Eh bien écoutez, je vous le propose.
Na raça, vai levanta na raça. Tem que ter fé na vida, buscar sobrevida, curtir e viver. Não fuja da raia, não pule da raia. Beco sem saída, segue sua vida, busque prazer. Ai ai, por pouco quase nada. Tira a poeira, alegria de graça. Ai ai. Por pouco quase nada. Do rabo de arraia, pulo muralha, caiu na gandaia.
Viens danser avec moi.
Viens petitar, dança sem parar.
Comigo, vem dançar.
Viens petitar,
yeah, yeah. Viens danser avec moi.
Viens petitar, dança sem parar.
Comigo, vem dançar.
Dança sem parar.
Petit pas, on ralentit tout doux et puis on ne s'arrête pas. Vas-y, approche-toi, vas-y, accroche-toi. Toute la nuit, si tu fais comme si, je ferai comme ça. Aïe, aïe, c'est beaucoup et c'est rien. Lentement, danser sans lendemain. Aïe, aïe, jusqu'au petit matin. Tête, le temps s'arrête, tes yeux dans les miens.
Viens danser avec moi.
Viens petit pas, danse sans parar.
Comigo, vem dançar.
Viens petit pas,
yeah, yeah. Viens danser avec moi.
Viens petit pas, danse sans parar.
Comigo, vem dançar.
Danse sans parar,
yeah.
pas, viens petit pas, viens petit pas, viens petit pas, quand ça c'est pas là.
Viens danser, c'était Joko Selva sur l'antenne de Graphite. Merci Brian de nous avoir proposé cela. C'est, je pense, une des premières fois qu'on l'écoute sur l'antenne de Graphite.
Jean-Noël Moreau, Biotine, sur Graphite.
Et puis on arrive déjà presque à la fin de cette émission. Ça passe vite, on n'a même pas le temps de réagir, de se poser ensemble. Qu'est-ce qui nous arrive comme ça? On est dans un temps qui va trop trop vite. Et là, je vais parler encore de ce qui va se passer à l'horizon 2050. L'établissement d'une présence humaine durable sur la Lune, c'est en cours de préparation. Mais l'idée de pouvoir vivre et de travailler sur Mars à l'horizon 2050, ça commence à prendre de l'ampleur. Il y a un article qui a été publié dans la revue, sur le site pardon, Space Daily, qui aborde la question cruciale de la possibilité d'élever des animaux sur Mars, qui est un enjeu clé, hein, bien sûr, pour la colonisation de cette planète. L'un des principaux défis de cette colonisation repose sur l'alimentation des astronautes et des colons. Et nourrir une petite colonie humaine de plusieurs dizaines de personnes nécessitera des solutions viables, car, bien sûr, la livraison de consommables depuis la Terre sera à la fois coûteuse et peu pratique, bien évidemment. Problème, ce sont les conditions extrêmes sur Mars. Une atmosphère très fine, des températures souvent inférieures à moins 50 degrés, des niveaux de radiation élevés. Bien, ces conditions extrêmes compliquent davantage la vie animale, ce qui va nécessiter la construction d'installations comme des dômes ou des refuges souterrains. Cependant, l'idée de créer des fermes spatiales va au-delà de la simple question nutritionnelle. Elle répond également à des besoins psychologiques et sociaux. C'est ce que souligne Clarence Oxford, qui est l'auteur de l'article en question hein, sur le site Space Daily. Les humains sont des créatures d'habitude. Nous ne mangeons pas seulement de la viande, du lait et des œufs, mais nous vivons aussi à côté d'animaux pour des raisons de compagnie, de confort psychologique et même de recherche scientifique. Ainsi, le concept de ferme martienne est une discussion sérieuse au sein de la communauté scientifique. C'est ce que nous dit Clarence Oxford. Initialement, seules des espèces ayant des exigences minimales pourraient être envisagées pour les colonies martiennes. On peut trouver les insectes, hein, qui sont une source de protéines peu exigeante, les poissons, les crustacés qui pourraient être élevés en aquaponie, et les poules et les coqs qui fourniraient à la fois des œufs et de la viande. Des animaux plus grands comme les vaches, les porcs, les moutons, ça semble peu viable à court terme en raison de l'énorme quantité de ressources requises pour leur alimentation et leur espace de vie. Cela dit, l'établissement d'élevage bovin et porcin pourrait devenir envisageable à long terme. Les scientifiques estiment que la première génération de colons dépendra principalement de l'agriculture végétale pour leur alimentation. Et cela crée un dilemme. Bien que les plantes soient plus faciles à cultiver dans des systèmes fermés, la nourriture d'origine animale fournit des nutriments essentiels, souvent absents dans un régime végétalien, comme les protéines, les vitamines B12 et les acides gras. Ainsi, même si des régimes à base de graines, de salades et de viande artificielle pourraient constituer une solution initiale, eh bien l'abandon total des produits d'origine animale serait difficile et l'intégration d'animaux dans la colonie pourrait apporter des bénéfices nutritionnels et psychologiques significatifs. Cela dit, la présence d'animaux pourrait jouer aussi un rôle crucial dans la réduction du stress lié à l'isolement sur Mars. Leur existence contribuerait à essayer de maintenir un lien un peu émotionnel et culturel avec la Terre, ce qui augmenterait aussi la qualité de vie des colons. Les psychologues de la NASA ont observé que la présence d'animaux à bord de la Station spatiale internationale peut diminuer le stress des astronautes, bien que cela n'ait pas été mis en pratique à bord du complexe orbital. Sur Mars, une compagnie animale comme un chat, qu'on ne va pas manger bien sûr, pourrait alors s'avérer réconfortante dans un environnement aussi austère. Actuellement, des recherches et des expériences sont menées dans plusieurs pays sur différentes espèces animales, certaines étant réalisées en microgravité, et ces études visent à comprendre comment ces espèces peuvent se reproduire en dehors de la Terre et déterminer lesquelles seraient les mieux adaptées à des fermes martiennes. L'avenir des fermes spatiales sur Mars demeure incertain, mais les avancées en matière de viande artificielle pourraient rendre cette option plus réalisable à court terme. Au fur et à mesure que la colonie martienne se développera et se stabilisera, eh bien l'introduction d'animaux qui vont être destinés à renforcer le tissu social et culturel des colons, ça va devenir une réalité plausible. Les choix réalisés aujourd'hui en matière d'alimentation et de bien-être animal façonneront le mode de vie des futurs colons martiens. En somme, créer donc des fermes spatiales sur Mars n'est pas seulement une projection futuriste, mais aussi une nécessité à laquelle il faut anticiper. Cela soulève des défis techniques, biologiques, ainsi que des considérations éthiques et psychologiques qui seront déterminants pour l'établissement d'une société durable sur une autre planète. Voilà. Élever des animaux sur Mars, on est donc sur une nouvelle forme d'agriculture extraterrestre, c'est assez fascinant. Mais je vous ai dit que cette décennie 2020 allait être formidable. Je vous l'ai dit et je vous le dirai encore. C'est la fin de cette émission. Vous étiez en train d'écouter Biotine, l'émission d'actualité scientifique sur Graphite. Le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. La rediffusion de cette émission le mardi matin à 10h. On se retrouve samedi prochain. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine à l'écoute de nos programmes sur Graphite. À bientôt, au revoir.